Bonsoir à tous, bienvenue dans Trapanel, dans cette émission spéciale où Sébastien Adam m'a confié les clés de Trapanel exceptionnellement pour faire une émission qui va explorer un petit peu les coulisses de Trapanel pour aller à la source des choses et en savoir un petit peu plus sur cette mystérieuse émission.
Oui, mais oui. Eh bien, bonsoir à toi, bonsoir Julie, merci d'avoir accepté cette mission, pas forcément évidente. Donc Julie, tu as contribué à cette émission, tu as apparu à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Et tu es musicienne, tu as pris le violoncelle au conservatoire et tu fais de la musique aujourd'hui, de manière, on peut dire, un peu plus autodidacte. Enfin, avec une approche qui se rapproche plus de ça.
Oui.
Et du coup, c'est en ça que tu étais un peu au cœur de la problématique qui tourne autour donc de cette série d'émissions, quoi.
Voilà. Alors, tu parles de la série d'émissions Premier Mouvement,
ouais,
qui concerne donc vraiment la thématique de l'apprentissage de la musique.
Ouais, c'est ça.
Avec les parcours très variés de musiciens, musiciennes qui, pour certains, viennent du milieu académique, qui ont appris la musique au conservatoire, d'autres qui sont complètement autodidactes, et puis tous les profils aussi un petit peu intermédiaires. Et alors moi, je fais partie des gens qui ont appris la musique au conservatoire, puis après tout arrêté pour reprendre la musique longtemps plus tard. On est plein à avoir fait ça. Mais du coup, d'une manière très différente.
Ouais, c'est ça. Et du coup, tu avais un parcours qui correspondait vachement justement un peu à l'idée qu'il pouvait y avoir derrière ça, quoi.
Et après, on voit qu'il y a aussi des personnes qui, dans les gens que tu as interviewés, qui qui ont tout appris tout seul. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il peut y avoir des sortes de complexes, mais croisés des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes qui ont appris la musique de manière académique au conservatoire peuvent avoir une sorte de... Le risque, c'est de manquer de liberté, d'être un petit peu enfermé dans un carcan, comme s'il y avait des rails, un chemin dont on ne pouvait pas vraiment s'écarter pour aller vers la création. Après, c'est vrai qu'au conservatoire, alors selon les conservatoires de musique aussi, mais il y a un peu une tendance où c'est assez rigide. Je caricature, parce que évidemment, il y a des personnes que tu as interviewées qui ont pu raconter les formidables rencontres, les formidables professeurs qu'ils ont pu avoir, qui ont vraiment laissé la place à leur créativité, qui les ont encouragés, qui ont ouvert la porte de la liberté, l'improvisation, etc. Mais c'est vrai que si je fais un peu la caricature, on va dire que la formation classique conservatoire est plus rigide. Et après, la question, c'est est-ce que ça va permettre quand même aux musiciens d'être assez libres pour s'exprimer autrement. Et du coup, il peut y avoir une sorte de complexe presque une forme de classe bourgeoise qui n'arrive pas à se libérer et qui va avoir la scène indépendante musicale et je sais pas, beaucoup plus punk, rock, underground et plein de choses vraiment très éloignées de cette formation classique musicale et en se sentant un peu sur une autre planète et de se sentir presque trop propre, trop... trop sérieux.
Ouais,
et
ouais.
Après, les musiciens qui ont appris beaucoup en autodidacte, qui vont avoir parfois tout un tas de complexes, de « Ah mais oui, mais moi j'ai pas appris comme ci, j'ai pas appris comme ça », et qui n'ont pas appris la théorie musicale, ou qui vont pas savoir forcément lire des partitions, des choses, et qui vont avoir une sorte de complexe de l'imposteur aussi, dans un autre sens. Mais c'est presque comme des miroirs opposés. Et avec ces deux extrêmes, il y a toute la palette de couleurs entre les deux aussi, et on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes et que c'est pas du tout caricatural comme ça, parce que entre les deux, il y a des ponts en permanence et plein de situations intermédiaires. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. De voir que des gens ont pu complètement se libérer alors qu'ils viennent du monde, du milieu du conservatoire, ou qui ont appris la musique vraiment classique au départ, et qui se sont vraiment après éloignés de ça, qui font des choses très différentes. Et puis les personnes qui ont appris en autodidacte, qui se rendent compte que en fait c'est aussi une richesse, alors qu'ils peuvent aussi après décider de prendre des cours beaucoup plus tard, se former, qu'il y a des ponts vers l'apprentissage un peu plus académique. Mais sans que ce soit une obligation. Et en tout cas, on voit qu'il y a vraiment des passages entre les deux.
Oui.
Je sais pas trop quoi dire.
Non, mais tu fais, tu fais comme une synthèse, en fait.
Ouais.
C'était
la note de synthèse sur premier mouvement.
Mais ouais.
Et alors, toi, où est-ce que tu te situes ? Donc, tu as exploré ça à travers toute cette série d'émissions.
Ce que tu me dis, je suis content parce que ça correspond un petit peu à l'idée que j'avais envie de développer autour de ça, quoi, en fait. Je trouve que cette question-là, en fait, celle de l'apprentissage, de comment tu as appris et tout ça, ça fait quand même, je sais pas combien de temps, mais quelques années quand même, que j'ai l'impression qu'elle est très... Dans ma vie, à moi en tout cas, elle peut être très, très récurrente, quoi. Dans les conversations, dans les questions qu'on se pose, dans plein de choses, peut-être dans le fait à un moment de vivre de la musique, que ça devienne ton métier. Il y a souvent des questions de légitimité qui se posent et tout ça. Et par ailleurs, quand on parle de ça, l'idée de l'autodidacte qui se débrouille avec son oreille et peu de technique, et à côté de ça, les gens qui viennent du conservatoire et donc qui apprennent, enfin, voilà, bon, tout ce que tu as dit, je vais pas le redire, mais il y a un certain nombre de clichés en fait autour de ça, clichés qui ne sont pas dénués de fondement du tout, qui correspondent à certaines réalités, tout ça, quoi. Mais en même temps, ce que je trouvais intéressant, enfin, si je le dis comme ça, c'est comme si je savais au départ ce qu'il en retournait, mais en vrai, c'est en le faisant aussi qu'on voit où ça nous mène. Et ça a même dépassé un peu ce que j'aurais pu imaginer au départ. Mais c'est que effectivement entre les deux pôles dont on parle, en fait, il y a une infinie palette de nuances. Il y a des paradoxes. Il y a des gens qui font des transitions, des passages à un moment d'un univers, j'aime pas ce mot-là, à un autre. Tant pis, je le dis quand même. Trapanel. Il y a un truc qui est quand même assez, assez flagrant, c'est que moi qui suis un éternel débutant, c'est pas mon métier de faire de la radio, donc ça aussi ça a des répercussions, c'est marrant, des résonances en tout cas avec le sujet, mais c'est que je pense qu'il y a des gens qui font ça de manière beaucoup plus professionnelle que moi et qui cadrent dès le départ en fait, en arrivant avec un certain nombre de questions très précises, sûrement un temps de parole limité. Moi j'ai pas du tout fait ça. Et un truc qui s'est vite avéré évident, c'était que le sujet est tellement vaste que il y a eu des enregistrements assez longs. En fait, j'avais 12 heures en tout. 12 heures d'enregistrement. Parce que c'est un sujet qui fait parler et qui a plein d'implications. C'est un sujet qui est assez vaste, quoi. Il y a des implications familiales, des fois, il y a des questions de culture musicale, enfin, il y a plein de choses.
Et alors, toi, dans ton parcours, donc, tu n'es jamais allé au conservatoire,
Non.
Mais tu as pris des cours, donc des cours un petit peu de guitare au départ.
Oui.
Et ensuite, tu t'es principalement formé toi-même pendant des années.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Jusqu'à revenir beaucoup plus tard à te dire là, j'aimerais à nouveau prendre des cours. Du coup, pour cette fois-ci, le piano.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En fait, j'ai commencé la guitare quand j'avais 9 ans. J'ai pris des cours. On faisait pas de solfège, ou alors vraiment très, très peu. Et c'était, en fait, on apprenait à enchaîner les accords, quoi. En fait, on jouait des accompagnements. Guitare d'accompagnement, ce cours s'appelait comme ça. Ça délimitait tout de suite. Enfin, c'était pas de la guitare classique, quoi. C'était clairement, je pense que c'était délibérément présenté comme ça. Et donc, mi mineur, mi majeur, la mineur et majeur. Enfin, toutes ces positions d'accords qu'on est censé connaître, qui sont pas si nombreuses que ça d'ailleurs, mais encore faut-il parvenir à les enchaîner, avoir le rythme qu'il faut et tout ça. Et donc voilà, moi j'ai appris comme ça pendant 2 ans. Et par ailleurs, j'ai 2 oncles qui, quand j'étais jeune, jouaient de la guitare, quoi. Et qui, eux, faisaient d'oreille et ils avaient des petits cahiers où ils notaient, je pense à mon oncle Christophe notamment, qui avait des petits cahiers où il notait des suites d'accords de morceaux de Renaud, par exemple. Ou de Neil Young, ou de, je me souviens plus, de plein d'autres. Et... voilà, je m'y suis mis comme ça, quoi. Je m'y suis mis de cette manière-là. Ça a devancé un peu. Ça, c'est un peu une question d'ailleurs aussi, parce que maintenant que je donne des cours de guitare, je sais que pour moi, ça a un peu devancé mon goût pour la musique. Non pas que j'en avais pas, mais c'est vrai que. Tu vois, le nombre de personnes qui parlent de Nirvana et qui se sont mis à la musique avec Nirvana et qui ont appris les accords à ce moment-là et tout ça. Moi aussi, j'ai eu un truc avec Nirvana. De toute façon, c'était notre génération. Hein. J'avais 13 ans, 91. Mais du coup, les accords, je les connaissais déjà.
Et du coup, ton oreille, elle était déjà... quand t'écoutais la musique, tu résonnais en termes d'accords, de guitare, parce que t'avais appris un petit peu plus jeune déjà... Ça, donc ton oreille, elle était un peu en train d'analyser les musiques que t'écoutais avec déjà les notes, les noms des accords.
Ouais, je pense d'une certaine manière, ouais, parce que de toute façon, mes oncles, ils avaient fait comme ça, donc pour moi, c'était normal, quoi, de retrouver.
T'identifies, tu notes.
Et puis ça vient, en fait, à un moment, beaucoup de gens font une montagne, mais pour ce qui est de. Enfin, une montagne au sens où. Il peut y avoir un peu des blocages à ce niveau-là. On n'a pas l'impression forcément qu'on peut faire ça soi-même. Et puis finalement, au bout d'un moment, le ré majeur ou le mi mineur, ils sont très reconnaissables et puis ils reviennent tout le temps. Donc finalement, tu sais, c'est ce que raconte Julien Ledru dans l'émission qui a appris tous les accords à la guitare uniquement en écoutant les Beatles, en fait. Parce que, et ça, ça fait longtemps qu'il m'avait raconté ça. Ça fait 20 ans qu'il m'avait raconté ça. Et ça faisait partie des 2-3 trucs en fait que j'avais en tête depuis longtemps et qu'on nourrit un peu le projet de faire cette émission là, quoi. Voilà.
Ouais, donc t'as commencé après à jouer avec d'autres musiciens.
Ouais.
Au sein de groupes.
Ouais. Mais je crois que j'ai surtout appris en jouant beaucoup, mais même seul. Moi, quand j'avais 15-16 ans, mes samedis après-midi, souvent, c'était ma première guitare électrique, j'ai passé beaucoup de temps dessus, quoi. Et puis, les groupes, quoi, t'apprends à jouer ensemble et tout ça. Et puis, donc, ce dont t'as parlé à un moment aussi, c'est le fait qu'à un moment, beaucoup plus... Bon, je me suis mis au clavier, enfin j'ai eu un clavier, un magnéto 4 pistes, et je me suis mis à faire de la musique, à empiler les pistes, à construire des choses, à m'intéresser à comment ça fonctionne un peu, les arrangements d'un morceau, quoi. Et le solfège, du coup, c'était toujours pas vraiment ma langue naturelle, mais c'est venu un peu progressivement, en donnant des cours, en faisant le CFMI. Enfin, je m'y suis mis un peu. Et à un moment donné, donc, mais là c'est vraiment plus tard, c'est vraiment au moment où j'ai commencé à bosser sur cette émission, à ce moment-là j'ai commencé à prendre des cours en fait de piano. J'ai eu envie de ça à un moment parce que j'avais des moments où, en achetant, je sais pas, des partitions d'Eric Satie par exemple, sur des brocantes, des dépôts-ventes et tout ça, enfin toujours avec cette manie d'accumuler des choses. C'est venu un peu comme ça. À un moment, ouais, j'ai commencé à vouloir jouer au piano, mais cette fois avec des partitions, en me coltinant un peu avec le solfège, à jouer au piano des morceaux que j'aimais, quoi. Donc aussi bien du Satie que du William Scheller ou du Véronique Sanson, quoi.
Et, ou un peu de jazz. Du coup, est-ce qu'il y avait une frustration? Tu avais le sentiment que tu avais besoin parce que avec déjà toutes les connaissances que tu avais, et tu savais déjà lire la musique, tu as décidé quand même de prendre des cours de piano, alors que finalement, est-ce que c'est pas quelque chose que tu aurais pu... et tu savais déjà jouer, tu voulais améliorer ton niveau de jeu. Et est-ce que c'est pas quelque chose que tu aurais pu apprendre seul? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, non, je vais prendre des cours? Est-ce qu'il y a une question derrière, inconsciemment ou consciemment, je sais pas, de légitimité, de se dire, ouais, du coup, c'est...
Ouais, je pense qu'il y avait un petit truc comme ça, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est un sujet, de toute façon, la légitimité, ça revient, c'est revenu régulièrement. Voilà, je pense à Stéphanie Hackett qui en parle un moment, qui est allée au conservatoire tardivement et qui parle explicitement de ce truc-là, de savoir où elle en était. Alors, je sais pas si moi ça s'est situé exactement au même endroit, mais je pense qu'il y avait un peu un truc comme ça, quoi. Ouais, je faisais de plus en plus de clavier. Je fais de fait de plus en plus de clavier depuis longtemps. Je me suis souvent retrouvé dans des groupes. Puis tu sais, maintenant, quand tu pratiques plusieurs instruments, ça peut être un atout pour jouer dans tel ou tel truc avec telle ou telle personne. Ça peut être un peu ce qu'on demande, quoi. Donc voilà. Donc j'ai toujours joué du clavier un peu comme ça, mais sans que ce soit mon premier instrument, et toujours en disant, ah, attention, je suis pas pianiste, je suis pas claviériste. Enfin, toujours ce même truc où on se défend un peu, et puis c'est vrai que je ne me considérais pas comme pianiste, et toujours pas aujourd'hui, mais je sais pas trop où ça s'est joué, mais je pense qu'il y avait un plaisir aussi, vachement, une envie de s'offrir ça, quoi, un peu, à un moment. Tu veux que je te raconte l'histoire de Trapaner?
Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous dire comment Trapaner a commencé?
Eh ben ouais, en fait, je crois que ça a commencé, l'envie a germé un peu progressivement, mais au tout départ, il y avait Radio Primitive à Reims. Quand j'étais étudiant à la fac, en fait, il y avait cette radio qui existait, que j'écoutais un petit peu. Dans laquelle je connaissais un peu des gens qui faisaient des émissions. Et je savais qu'on pouvait le faire. Je savais qu'en fait, c'était... et surtout parmi les cercles étudiants avec un pied dans la musique, il y en avait. Il y avait un tel qui faisait une émission de reggae. Je sais pas, je devais en connaître 3-4, en fait. Moi, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, et une des raisons, c'était que les gens qui faisaient ça étaient très spécialistes dans leur domaine. Il y avait un truc sur le reggae, il y avait, des trucs très rock, chansons françaises, c'était toujours un petit peu, dans mon opinion, en tout cas de l'époque, centré sur des styles musicaux précis, et moi, c'est vrai que mes goûts n'étaient pas... Ils étaient orientés dans un sens et dans un autre, mais je me voyais pas trop spécialiste dans un genre. En plus, à l'époque, ça fait vieux con de le dire, mais tant pis, je le dis quand même. Enfin, faut se souvenir quand même que dans les années 90, c'était plus difficile d'avoir accès à la musique et de la découvrir, puisque il n'y avait pas Internet. Le MP3, moi-même les médiathèques par exemple, c'est un truc que j'ai connu que plus tard. Donc, quand on enlève tout ça, déjà, ça limite énormément. On ne construisait pas notre culture musicale de la même manière. Est-ce qu'on y a gagné, perdu ? Je rentrerai pas là-dedans, parce que c'est juste très différent. Mais bon, en tout cas, c'est sûrement une des raisons qui a fait que, oui, moi, quand j'avais 20 ans, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, et c'est venu vraiment plus tard. Mais entre-temps, il y avait... des amis qui sont plus de ce monde, malheureusement, les frères Gorlier, Arnaud et Romain, qui avaient une émission. Et ça arrivait quand même fréquemment qu'on passe y jouer des morceaux. Et même des fois, c'est marrant parce que c'était le dernier créneau du soir. Et donc après, c'était supposé être des bandes. Et ils avaient les clés, en fait, donc on débordait un petit peu. Ce serait plus possible aujourd'hui, ça, mais je sais même pas si je dois le dire, d'ailleurs. C'est une grande transgression d'interdit. Mais oui, non, leurs émissions pouvaient déborder, quoi. Et il y a eu des grands moments comme ça. Voilà, donc tout ça faisait partie de ma culture. Et puis, à un moment, il y a un truc qui a été révélateur, en fait, pour moi. C'était l'émission de quelqu'un, d'ailleurs, je suis très très content qu'elle ait contribué à Premier Mouvement. C'est Barbara Carlotti, en fait, qui avait une émission qui s'appelait Cosmic Fantasy, avec tout un concept autour de la science-fiction. On est dans un vaisseau et tout ça, quoi. Et des thématiques très précises qui permettaient d'orienter la musique qui était diffusée dans l'émission, quoi. C'était la planète amour, la planète... Je sais plus, mais ça permettait d'orienter les choix musicaux et des choses qui étaient très différentes, en fait. Il pouvait y avoir du rock et de la chanson française, et puis et pour moi, il n'y avait pas justement de limite de genre, parce qu'il y a la question un peu d'identité, je trouve, dans le fait de faire une émission. Qu'est-ce que tu vas proposer, ne serait-ce que pour la présenter aux radios, la soumettre, quoi. Donc voilà, ça a commencé à ce moment-là. C'était en 2013.
Si j'avais connu Trapanel en 2013, j'aurais écouté Trapanel.
Oh, bah, après, mes premiers pas, c'est marrant parce que les émissions de Barbara Carlotti, l'exemple dont je parle, ce sont des émissions qui sont hyper élaborées, hyper montées et tout ça, quoi. Avec une équipe autour, c'était sur France Inter. Et moi, c'était pas du tout ça. Hein. C'était. J'arrive avec. Alors, j'avais effectivement des playlists un peu thématiques et tout ça, parce que Voilà, cette idée-là me plaisait bien. Je parlais entre les morceaux assez maladroitement. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que mon truc, c'était pas du tout d'improviser, en fait. je laissais des énormes blancs et je me suis mis à écrire beaucoup. Arriver avec des trucs qui étaient écrits. Et puis, progressivement, à interviewer des gens, à les inviter à l'émission.
C'est marrant parce que, tu vois, autant pour les émissions de radio comme ça, tu dis que tu écrivais les textes assez rapidement. Tu t'es mis à préparer à écrire, oui. Plutôt qu'à improviser. Mais pourtant, toute la série Premier Mouvement... les interviews d'artistes que tu as pu faire, c'est pas des questions que tu préparais à l'avance, c'est des choses où justement c'est très spontané, improvisé, les gens que tu as interviewés peuvent complètement partir un peu dans le sens où ils ou elles veulent. C'est un peu à l'opposé du truc préparé et écrit.
Peut-être. À chaque fois, je présentais l'idée, j'en parlais, je sais pas, comme je peux en parler là, quoi, que je trouvais ça intéressant de parler de ça, de développer ça. Et il fallait pas beaucoup de choses pour que ça lance, en fait, pour que ça lance le discours autour de ça, quoi. Parce que, je le répète, je pense vraiment que c'est un sujet,
qui est
vaste, qui est passionnant. Et c'est aussi beaucoup de personnes interviewées sont musiciens, musiciennes, professionnel ou, je sais pas, semi-pro, mais en tout cas, la musique, c'est vraiment au centre de leur vie, quoi. C'est pas des gens qui jouent de la guitare de temps en temps, c'est des gens, voilà, pour qui c'est au centre, quoi. Et en fait, ces années-là, le moment du début, c'est vraiment c'est très formateur, c'est très important. Il y a une part de révélation souvent là-dedans quand même, quoi, dans le fait de commencer à faire de la musique, quoi. Et souvent, la façon dont les gens en parlent, c'est vraiment ça, quoi. Et souvent, contrairement à moi, ça va de pair avec les découvertes musicales fortes qu'on peut faire, quoi. C'est un moment, le moment charnière où tu commences la musique, tu commences à aimer la musique aussi, quoi.
C'est marrant, mais en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est vraiment décorrélé. Il y a eu, je pense, voilà, les années d'apprentissage de musique, du violoncelle au conservatoire, et enfin, l'orchestre, tout ça. Mais j'ai pas... Alors, j'écoutais de la musique à l'époque, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est complètement décorrélé avec le fait de jouer d'un instrument. Peut-être parce qu'après, la musique que j'ai commencé à écouter sur la fin de l'apprentissage académique, ça n'avait absolument rien à voir. Plutôt à écouter du hip-hop alors que je veux du violoncelle, la musique classique. Donc,
tu disais que la musique que t'aimais ne trouvait pas sa place.
Absolument pas. On n'a jamais, voilà, les profs n'ont absolument pas ouvert la porte à ça, n'ont pas du tout laissé la place à ça. Mais ensuite, voilà, j'ai arrêté pendant des années de faire de la musique. Et j'ai eu ces périodes de passion avec des groupes de musique. Moi, j'étais une grande fan des Doors. Enfin, j'adore les Doors. mais j'ai jamais. Je me suis pas du tout à l'époque questionnée sur comment ils faisaient de la musique, comment ils composaient, j'avais pas cette curiosité, tu vois. Avant de me remettre à faire la musique des années plus tard, ou après quand tu commences à produire, tu t'intéresses beaucoup plus à comment les autres font leur tambouille. Toi, la curiosité, elle est arrivée parce que t'étais fan de tel musicien, tel groupe.
Ouais, mais en même temps, je me rends compte, encore aujourd'hui, ça m'est arrivé ces dernières années de me pencher sur des suites d'accords de Bertrand Burgala, par exemple, ou des Beach Boys, en me rendant compte à quel point elles pouvaient être complexes. Et avec des modulations, des accords un petit peu enrichis, enfin des vraies grilles, quoi. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça correspond à ce que je peux avoir envie de faire aujourd'hui. Mais bizarrement, même en ayant écouté ces musiques-là quand j'avais 20 ans, 30 ans, je me suis pas penché avant sur cette complexité-là, quoi. Je sais pas, j'ai pas essayé de les rejouer. Donc c'est seulement maintenant, des fois, que je capte des trucs, alors que c'est des musiques que j'écoute depuis toujours, quoi. Et je regrette même un peu, parce que ça aurait pu m'enrichir plus jeune et me faire faire des choses différentes. Mais sinon, ce que tu me dis, ça me rappelle, t'as vu Arthur, en fait, Arthur de Barry, quand il en parle, c'est pareil, il parle de son apprentissage de violon au conservatoire en disant qu'il lui avait fallu du temps avant de se dire, de conscientiser le fait qu'il était en train de faire de la musique, quoi. C'est fou, en fait. Vu de l'extérieur, ça peut être quand même très, très surprenant, quoi.
Ouais, mais en même temps, finalement...
Mais je comprends.
Oui. C'est comme... je vais faire un parallèle un peu dingue, mais comme un chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un, il n'est pas en train de se dire « Ah tiens, là, j'ai... » Je suis au milieu de son ventre, quoi. Tout ce que je veux dire, on réfléchit. Non, mais je dis ça parce que j'ai parlé avec des chirurgiens qui expliquent c'est pour pouvoir faire le truc, tu réfléchis pas non plus à ce que t'es en train de faire. Et quelque part, si t'es en train de faire la musique et que t'es en train de réfléchir, je suis en train de faire si tu comptes, tu conscientises le truc, tu l'analyses, tu décortiques. Là, tu perds tout. Enfin, je sais pas. Tu joues plus correctement, non ?
Je sais
ou
pas.
C'est pas intéressant.
Je
ou...
sais pas.
Ça, c'est, ou alors c'est robotique.
Il y a des gens qui pensent ça.
Après, ça doit dépendre de. Mais non, je pense qu'il y a tellement de manières de réfléchir différentes.
Ouais, je suis pas sûr de ça en fait.
Tellement de manières de fonctionner.
Tu l'as dit déjà ça. En fait, ouais. que pour toi, comme pour plein de gens, le fait de d'analyser la musique pouvait être un frein pour l'apprécier. Et ça dépend vraiment des gens, mais en tout cas, moi, ouais, en même temps, peut-être qu'il a fallu que j'apprécie certaines choses. J'avais jamais pensé avant à ce que je vais dire là, mais peut-être qu'il a fallu que j'apprécie certaines choses et qu'elles me touchent vraiment avant même de réfléchir à la façon dont elles étaient faites. Peut-être qu'il a fallu ça pour que je les apprécie. C'est-à-dire peut-être que si j'avais écouté Pet Sounds des Beach Boys, par exemple, avec une approche cérébrale de quelqu'un qui a appris, qui a appris l'harmonie
d'analyse,
au conservatoire, par exemple, peut-être que j'aurais pas apprécié de la même manière. Ouais, c'est possible. Faudrait redemander à Ferdinand, à Rémi Foucard, à des gens justement dont le discours a pu tourner un peu autour de ça, quoi. Ouais, peut-être. Bonne question. Je sais pas.
À suivre. À bientôt sur Trapanet.